c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr. On écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Chut, on écoute la télé avec votre Club Med La Palmyre Atlantique. Envie de vous évader le temps d'une journée ou d'une soirée all inclusive? Avec votre Club Med, c'est possible. Profitez des animations et des activités sportives, de la restauration le temps d'une parenthèse bien méritée. Renseignements et réservations au 05 46 39 77 30. Club Med, venez vous étonner.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute en écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Allez, au menu de ce nouveau numéro de Chute en écoute à télé l'hebdo, on va consacrer une large partie de cette émission à La Promesse Verte, le film d'Edouard Bergeon qui sort mercredi dans les salles. Edouard Bergeon, Christophe Rossignon et Alexandra Lamy nous rejoignent dans un instant. On va parler également de La Première Fois au Musée, la nouvelle émission de TV5 Monde avec Richard Orlinski. Et puis Brigade Anonyme débarque demain sur M6. À cette occasion, Marilyn Lima, Victoire Dabovide, la productrice, et Julien Seri, le réalisateur, seront nos invités. Et puis en fin d'émission, page spéciale Sérimania qui vient de s'achever du côté de Lille. On fait le bilan.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné aujourd'hui consacré à La Promesse Verte qui sort mercredi dans les salles. Un film qu'on soutient déjà depuis plusieurs semaines, en tout cas où on a eu plaisir à y organiser des avant-premières avec une foule dans les salles absolument folle. Et c'est un plaisir en tout cas pour nous d'avoir Edouard Bergeon, le réalisateur, qui est avec nous. Bonjour Edouard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alexandra Lamy va nous rejoindre également dans un instant. On va parler évidemment du rôle de Carole Landreau. Mais on va y suivre dans cette promesse verte, justement, l'histoire de Martin Landreau, un jeune étudiant qui part en Indonésie. Et on va dire qu'il va y faire de sacrées découvertes, mais aussi de belles connaissances. Quelque chose qui va changer sa vie à jamais. Je crois qu'on peut déjà planter un peu le décor comme ça.
Oui, Martin fait une thèse, notamment sur la déforestation. Il fait le tour de l'Indonésie et sa dernière étape le conduit à Bornéo, qui est la plus grande île, qui était une des plus grosses forêts tropicales avant qu'elle soit détruite par des compagnies forestières pour vendre le bois précieux, mais surtout pour planter des palmiers à huile, de l'huile de palme. Huile qui va servir dans l'alimentation et ensuite dans les énergies exportées en Occident pour nous, pour faire de l'essence verte, de l'électricité verte, pour faire peut-être demain du carburant, du kérosène vert pour voler les avions. Tout est vert, tout va bien, on détruit la planète, mais on a du carburant vert et ça rassure beaucoup de monde. D'où le titre, La Promesse Verte. Vous voyez bien que c'est un petit peu cynique tout ça. Donc Martin part là-bas pour terminer sa thèse à la rencontre du peuple Dayak, un peuple d'autochtones, de paysans qui habitent cette forêt primaire, qui en est chassé. Il va rencontrer une des activistes Dayak, Nila, qui est la lanceuse d'alerte locale, une jeune femme qui se bat pour sa terre, sa forêt, son peuple. En la rencontrant, il va être témoin avec elle de pratiques mafieuses et d'une exaction dans un village de Dayak. Il va en faire des images et là, c'est là que il aurait sûrement pas dû, puisque les images qu'il a fait de ce qui va se passer dans ce village, ça va lui coûter cher. Il va être emprisonné et même un peu plus.
Et c'est ce qu'on va découvrir et c'est là que le rôle d'Alexandra Carole va rentrer en jeu, puisque ce film, alors dénonce sans dénoncer, parce qu'il n'y a pas de révélation suprême, on peut tout trouver sur les réseaux aujourd'hui, c'est qu'un constat, mais sur fond un peu justement de ce scandale de l'huile de palme qui pourrait se rapporter à n'importe quelle aujourd'hui industrie, il y a aussi le combat d'une mère pour essayer de ramener son fils et qui va devoir faire face à toutes les pressions qu'elle va trouver finalement sur son passage.
Alors Carole, Alexandra Lamy, c'est l'héroïne du film. C'est une prof d'anglais en Vendée, au Sable d'Olonne, une petite vie normale. Elle a un fils, et elle a un seul fils, c'est Martin. Et un jour, elle va recevoir un coup de téléphone alors qu'elle termine un cours d'anglais. Et là, le monde va s'écrouler. Son fils, qui devait rentrer dans quelques semaines, va pas rentrer. Et le Quai d'Orsay, la diplomatie française lui annonce qu'il est même en prison. Et là, un monde s'écroule. Et cette maman, Madame Tout-le-Monde, va se transformer en une héroïne qui va se battre et déplacer passer des montagnes pour comprendre pourquoi il a été accusé à tort, parce qu'en fait Martin est innocent, il n'a pas trafiqué de drogue comme on veut bien le faire croire, mais il devient une monnaie diplomatique entre deux pays, un pays donc l'Indonésie qui a à vendre à la France de l'or vert, de l'huile de palme, et la France qui a forcément des intérêts à l'international, qui a à vendre des rafales, des satellites et beaucoup d'autres choses, du BTP, plein de choses, parce que la capitale indonésienne est en train de déménager, on construit une nouvelle capitale sur l'île de Bornéo justement, et il y a beaucoup d'intérêts, notamment pour les entreprises françaises. Donc Carole va se retrouver au milieu d'un jeu diplomatique où Martin, son fils, devient une monnaie d'échange, tout simplement. Et à ce moment-là, en plus, il y a le projet d'amendement porté par une députée écologiste de taxer les importations d'huile de palme. Donc il va falloir qu'elle se retrousse les manches et qu'elle se jette dans les méandres de la diplomatie, du lobbying, pour comprendre tous les enjeux qu'il y a et pour essayer de voir comment, par quel levier, elle peut faire libérer son fils. Va-t-elle réussir ? On voyage avec la maman, Carole, qui va donc se rendre en Indonésie. On prend le bateau, l'avion, on navigue dans des prisons, on va sur des fleuves, on en prend vraiment plein les yeux, parce qu'en plus j'ai fait le choix de tourner en cinémascope, donc dans un format vraiment adapté au cinéma, comme les westerns. J'ai attaché beaucoup d'importance aussi au son de cette forêt et à tout le reste, à la musique, vraiment pour que le spectateur soit sous tension, c'est un thriller, un éco-thriller. Et donc le spectateur voyage parce qu'il peut s'identifier aussi beaucoup à Carole, cette maman. En fait, le spectateur fait l'enquête et avance dans le film au même rythme que Carole, le personnage principal. Voilà, on prend les infos en même temps qu'elle. Donc on a des émotions avec elle, on vibre avec elle, on a peur avec elle. Tout comme avec Félix, c'est-à-dire Martin, son fils, Félix Moati, on vibre aussi avec lui quand il est emprisonné. Donc et on a peur avec lui. Donc il y a peu de scènes ensemble, sans en révéler le film, mais on est toujours avec les deux, même si on n'est que avec l'un ou avec l'autre.
Toi qui viens du documentaire, on a pu voir Femmes de la Terre il y a un mois, là, pile poil sur France 2, pour le coup, fin février. Il y a quelque chose toujours de très véridique dans ton cinéma. On l'a vu dans Au nom de la Terre, avec vraiment cette histoire qui est inspirée de ta vie, de ton père, de ce que tu as vécu. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut, à travers la fiction, faire passer des messages beaucoup plus forts, beaucoup plus vite.
Bah déjà, le cinéma, c'est une expérience unique. Dans une salle de cinéma, on se pose dans une salle noire devant un écran avec du son, on pose son téléphone. C'est mon producteur qui arrive là, donc voilà, c'est celui qui a cru
en premier au projet, justement aussi Christophe Rossignon, qui va venir nous rejoindre. Christophe, on va parler de la musique aussi, parce que c'est vraiment un membre à part entière. Tu nous embarques tout de suite, Edouard, dans l'ambiance musicale du film pour absorber le spectateur, et tu ne le lâches plus jusqu'à la fin. Et la musique, c'est plus d'une heure 20 sur 2 heures. C'est très rare aujourd'hui qu'on mette un budget aussi énorme comme ça sur la musique et que ça soit vraiment un personnage à part entière. Ça, c'est chouette.
Il y a quelques jours, il y a une dame qui sortait de l'avant-première et qui me disait « Ah, j'étais tout de suite dedans, la musique m'a prise, puis après, il n'y avait plus après. » Mais en fait, je dis « Si, il y en a eu tout le temps. » Et je trouve que c'était un bon compliment parce qu'elle était tellement dans l'histoire que la musique, je n'ai pas la polluer, la musique, je n'ai la porter, en fait. Et j'ai eu peur, à plein de moments, j'ai vibré avec Carole et tout. Donc là, je crois que quand on en est là, c'est que la musique, elle joue bien son rôle. Voilà, c'est un rôle important, la musique. Donc il y en a beaucoup, mais parce que Thomas Dapello, le compositeur avec qui je travaille depuis 15 ans et qui avait déjà fait Au nom de la Terre, il a fait une musique extraordinaire qui nous met dans une atmosphère, en fait. Il s'est perfectionné dans les gamelans. Les gamelans, c'est des percussions en Indonésie. Et il y en a beaucoup, et on est vraiment dans quelque chose d'atmosphérique et en même temps qui renforce le côté thriller.
Alors on va vous demander à tous les deux, puisque Christophe vient de nous rejoindre aussi, comment vous vous sentez à 2 jours de la sortie du film que vous portez depuis 5 ans et demi et que tu portes en avant-première devant déjà des milliers de spectateurs qui ont pu avoir la chance de le voir depuis le 9 janvier dernier. Comment tu te sens là que le bébé va appartenir au public là dans 2 jours pour toi déjà, Edouard?
Moi, je me sens très heureux puisqu'on a fait voir le film à une soixantaine de cinémas, donc ça fait quelques personnes. On a fait le tour de France et puis je suis allé partout dans la campagne. Et voilà, en bon paysan que mon producteur, fils de paysan, et moi-même nous sommes, on sait que c'est du temps long, qu'on a travaillé depuis longtemps. Et là, en faisant une tournée province, en allant présenter notre film, on a quelque part labouré la France pour, j'espère, avoir semé de bonnes graines qui feront qu'on aura une jolie récolte tous ensemble. Donc on est confiant, on a travaillé, on a tout donné, on l'a fait avec passion. Maintenant, le film appartient aux spectateurs. Ils verront, je crois, de jolis comédiens, parce que ce sont eux qui portent le film. Alexandra Lamy est extraordinaire, c'est une maman extraordinaire. Félix Moati, qui est son fils aussi, puis tous les autres comédiens qu'il y a autour. Donc, heureux.
Ben oui, puis ça tombe bien parce qu'elle va arriver dans une poignée de secondes. Christophe, comment on se sent Bah parce que le producteur c'est celui qui a les pépettes, hein, qui prend les plus gros risques, hein, sur un film. Comment on se sent à deux jours là ?
Bien, confiant. Confiant parce que, comme vient de le dire Edouard, 60 villes où ça s'est bien passé, partout, avec des spectateurs très divers. Grande surprise de la quantité de jeunes qu'il y avait dans ces avant-premières.
Et des familles entières avec même des jeunes enfants qui ont compris le message, ça c'est le plus important aussi.
Oui, on avait commencé par le tester avec le collège où on a tourné, au Sable d'Olonne. La directrice de l'école avait fait venir les enfants à l'avant-première. On avait été très surpris de leur réaction. Évidemment, très belle réaction, très construite des quatrièmes et troisièmes, mais aussi des sixièmes et cinquièmes qui nous semblaient un peu petits peut-être. Non pas qu'il y a de la violence, et non pas qu'il y ait des choses qu'ils ne devraient pas voir, absolument pas. C'est peut-être, on avait pensé qu'ils étaient un peu jeunes pour la compréhension du film, mais pas du tout. Je crois qu'assez tôt maintenant la jeunesse elle est consciente que on a un peu déconné avec la planète et que il va falloir lever le pied et que c'est leur génération, évidemment pas celle de leurs parents, qui va s'en occuper. C'est eux qui vont prendre ça à bras le corps. Donc non, confiant et plutôt content, heureux de ce travail accompli.
Eh bien, on va le voir ce travail, en tout cas mercredi dans les salles, ça s'appelle La Promesse Verte. On va écouter la bande-annonce et puis on va revenir juste après avec Alexandra Lamy qui nous rejoint pour continuer à parler de ce très beau film. C'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Merci Edouard, merci Christophe.
Merci.
Merci beaucoup.
Écoute attentivement, qu'est-ce que t'entends ?
J'entends rien.
Parce qu'il n'y a rien à entendre. Plus d'oiseaux, plus d'insectes, plus d'orang-outans, plus rien.
Je les accuse de massacrer la planète. De tuer des villageois.
Et toi là, arrête de filmer.
Et de laisser en prison un innocent.
Martin Landreau, suivez-nous s'il vous plaît.
Coup de cœur ciné de la semaine.
Notre spécial La Promesse Verte continue. Le film de Edouard Bergeon et Alexandra Lamy nous rejoint maintenant. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ça me fait toujours plaisir de t'avoir et encore un film engagé. Comme tu sais si bien les jouer avec un rôle vraiment très très fort, un film très fort. On a planté un peu le décor avec Edouard il y a un instant. Mais Alexandra, qu'est-ce qui t'a décidé? Qu'est-ce qui t'a donné envie en tout cas de dire oui à ce projet?
Alors tout, plein de choses. La première, c'est vrai qu'avec Edouard, on a plein de points en commun. On vient un peu du même univers, du même endroit, etc. Et puis on s'était rencontrés au moment où il préparait Au Nom de la Terre. Et puis là, j'étais ravie d'abord déjà qu'il pense à moi pour ce deuxième film. Et puis c'est vrai que dans le premier, il y a un hommage à son père et c'est raconter la Terre avec un petit T. J'aime beaucoup cette image-là. Et puis dans celui-ci, on a l'impression que c'est aussi un film très très personnel. Il y a un peu un hommage à sa maman, le fils joué, mon fils joué par Félix Moati. Ça pourrait être un petit Edouard de l'époque avec l'appareil photo, le côté journaliste. Et puis là, cette fois, il raconte la Terre avec un grand T. Donc, ce qui me plaît là-dedans, c'est effectivement tout le fond, tout ce que nous savons aujourd'hui sur la déforestation, sur l'écologie. C'est un thriller écologique. Et puis, effectivement, avec la petite histoire à l'intérieur, c'est-à-dire cette femme qui va se battre pour faire sortir son fils qui se retrouve injustement enfermé dans les prisons indonésiennes.
Alors, malgré tout, les combats d'une mère, ça te connaît à force, mais celui-là est quand même très particulier. Il nous embarque pendant 2h04, on voit pas le temps passer. C'est mené tambour battant entre les Sables d'Olonne, entre l'Indonésie, alors tourné en Thaïlande, mais franchement, c'est incroyable le rythme qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est éprouvant un tournage comme ça? Comment on en ressort? On peut pas en ressentir indemne écologiquement, déjà parlant psychologiquement. C'est compliqué.
Bah, c'est vrai que c'est un film qui, d'abord parce que c'est la force aussi d'Edouard, c'est-à-dire qu'on sent qu'il est, il sait de quoi il parle. Il connaît très bien son sujet, donc effectivement le spectateur se prend comme le personnage de Carole que je joue, d'ailleurs comme la maman, on se prend tout ce qui, tout ce qu'on voit dans le film, et qu'on sent que tout ça est très juste et très vrai. Donc et puis effectivement il y a quand même ces épreuves aussi de cette femme. Donc c'est sûr que j'ai travaillé un peu avant, bien sûr, pendant un mois et demi, puis on a encore le tournage, et c'est sûr qu'après il nous en reste toujours un peu quelque chose, parce qu'on se fatigue, parce que c'est des films où on est dans le drame et puis moi j'aime bien aussi tourner en province ou à l'étranger parce qu'on reste toujours dans le film. Il y a rien qui nous casse la quotidienne de nos vies, nous casse pas notre rythme, et du coup on reste complètement dedans. Et parfois on est un peu schizophrène, on aime bien un peu rester là-dedans parce que ça nous permet de, moi je voulais que cette femme elle soit absolument pas maquillée, qu'elle soit fatiguée. C'est éprouvant tout ce qu'elle vit, qu'elle ait des moments où elle est perdue, elle sait plus, en plus c'est pour ça qu'il y a un côté thriller, c'est-à-dire qu'elle se retrouve aussi aussi manipulée et puis face à un lobbying énorme. Donc tout ça, elle doit être brassée. Donc c'est vrai qu'on sort de là d'abord avec une petite conscience écologique, mais que j'avais quand même déjà, mais alors là encore plus, parce que il y a des choses qu'on apprend aussi dans le film de, d'Edouard.
Alors non seulement on apprend, et ça j'allais y venir justement, c'est que là le film sort dans 2 jours. Je suis persuadé que tous ceux qui vont aller voir le film dès le lendemain, quand ils vont aller en supermarché, la première chose qu'ils vont faire, ils vont retourner tous les paquets de ce qu'ils achètent, ou ils vont regarder chez eux, en tout cas dans les placards, et s'apercevoir que de l'huile de palme, comme tu dis dans le film, on en croque de partout.
Mais il y en a partout. Et puis effectivement, c'est il y a effectivement la déforestation. Il y a plein de thèmes. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a fait une tournée, une énorme tournée. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans les avant-premières. On parle de la déforestation, de l'huile de palme, que au départ on pensait qu'il était que dans une fameuse pâte à tartiner, et puis on se rend compte qu'elle est partout. Et puis il y a le carburant vert. D'ailleurs, le titre, je trouve, est extraordinaire. La promesse verte, c'est la promesse qu'on nous fait et qui est soi-disant verte et qui ne l'est pas forcément, et en tout cas qui nous détruit.
Là, on compte avec Félix Moiti.
Génial, bah c'est un bonheur. Alors c'est marrant parce que Félix, on n'a pas pu toujours travailler ensemble, mais bon, comme on avait pris un coach en commun.
Parce que vous aviez peu de scènes ensemble finalement.
Peu de scènes ensemble, et en plus en amont, on avait un peu de mal à trouver du temps, donc on avait trouvé un coach en commun qui pouvait nous faire travailler l'un et l'autre en sachant plus ou moins où était l'un, où était l'autre. Parce qu'il faut toujours que quand on voit Félix, enfin quand on voit le rôle de Martin, donc le personnage de Martin, penser à la mère et vice versa. Donc il fallait qu'on sente qu'il y ait toujours une présence. Mais ça, c'est des trucs aussi d'acteurs. Après, moi, j'avais l'impression pendant 3 mois que c'était mon fils. Et d'ailleurs, quand Félix m'appelle, j'ai toujours un peu cette petite sensation de me dire oh, j'espère qu'il va bien.
J'espère qu'il est pas en prison.
Donc on garde toujours un petit, quand même, il y a toujours un petit truc. Je serai toujours un peu la maman de Félix quelque part.
Non, mais c'est vrai que c'est dramatique quand on voit ça. J'espère que les politiques vont s'emparer un peu du sujet aussi, que ce film va faire avancer, parce que c'est aussi ça, c'est faire avancer les consciences, justement des conséquences de ce qu'on mange finalement aujourd'hui.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, ça rentre dans l'éducation nationale. Ce film va aller à l'éducation nationale. Je crois même qu'il y a un kit exprès qui peut répondre à vos questions, qui peut. Donc ça, c'est super. Mais c'est pour ça que je dis, on est un peu des artivistes. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de changer le monde, mais par contre, ça nous permet de gagner du temps, ça permet de voir des choses. Parfois, c'est vrai que l'image. En plus, là, pour le coup, c'est vraiment un film à aller voir au cinéma. Hein. Je le dis parce que.
Les images sont époustouflantes.
Ouais, vraiment, les images, le son, c'est vraiment pour le coup un film à aller voir au cinéma. Quand on voit les forêts primaires, quand on voit tout ça, c'est quand même chouette de le voir sur grand écran. Et puis, c'est super de pouvoir le partager aussi avec du monde, et puis d'avoir des générations différentes.
Comment t'as reçu tout l'amour de ce public pendant toutes ces avant-premières? Parce que vous avez peut-être vu des milliers de personnes, là, justement, pendant ces 2 mois qui viennent de passer. C'est assez hallucinant de voir ce retour-là.
Ah ouais, c'est génial. Et c'est génial parce que c'est plein de gens différents, de tous les âges, de tous les milieux, ça touche tout le monde. C'est ça qui est assez intéressant. Et du coup, c'est génial de faire des débats. Parce que là, on a des vrais gens. Nous, on fait des débats avec les spectateurs, mais les spectateurs entre eux font des débats aussi. Et ça, c'est super. Parce que tout le monde a une conscience. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi l'optimisme et le pessimisme de certains. C'est vrai que ce qui est difficile, c'est parfois de changer les habitudes. Moi, je sais, par exemple, j'ai la chance d'avoir une mère qui a toujours cuisiné. C'est vrai que moi, j'ai jamais acheté de plat cuisiné. J'ai toujours cuisiné. Et pourtant, cuisiner, moi, c'est pas plus d'une demi-heure, hein. Mais en même temps, donc de manger local et de prendre les légumes de saison. Moi, c'est vrai, par exemple, j'ai toujours appris à regarder si ça vient de la France. Moi, je demande toujours, et dans un restaurant, d'où vient la viande, d'où vient le poisson, d'où vient tout le temps. C'est une habitude à prendre. C'est-à-dire de faire attention à ça parce qu'on le sait très bien, tout ce qu'on importe alors qu'on peut très bien le faire ici, c'est une catastrophe en fait.
Et c'est le sujet, il tombe pile poil au bon moment, hein, ce film. Hein. Il peut pas tomber à un meilleur moment que maintenant.
Hein. Exactement. Au niveau environnemental, c'est effectivement une catastrophe. Au niveau social aussi. Parce que évidemment ces gens-là sont exploités dans leur pays. Alors on nous dit toujours oui, mais s'ils avaient pas ça, ils travailleraient pas. Ouais, mais dans quelles conditions? Puis il y a des enfants. Et puis est-ce qu'en vrai on trouverait pas autre chose? Voilà, il y a des habitudes à casser pour effectivement aujourd'hui qu'on fasse un peu attention à notre planète. De toute façon, au bout d'un moment, on serait bien obligé, hein, d'y faire attention à notre planète. Ça c'est sûr. Hein.
C'est clair. On termine par tes projets, Alexandra?
Pour les mois qui viennent. Alors, j'ai le film de Éric Bénard qui s'appelle Louise Violet, qui sera aussi un peu un film avec une vraie histoire, parce que là, ça sera surtout sur l'éducation nationale, et puis un film très féminin aussi, enfin très féminin. Il y a de tout, c'est sur le monde paysan, c'est sur l'éducation nationale, c'est sur une femme, donc ça se passe en 1889. C'est une femme qui s'appelle Louise Violet, qui va dans les petits villages pour obliger les enfants à aller à l'école, puisque l'école est devenue obligatoire, gratuite et laïque. Et on se rend bien compte qu'on est dans un monde paysan. paysans et que les enfants étaient de la main d'œuvre, donc ils n'ont pas du tout envie d'aller à l'école. Et donc on parle du savoir. Enfin, c'est un film formidable d'Éric Bénard avec Grégory Gadebois.
Je retrouve après délicieux.
Évidemment, hein, son acteur fétiche, Jérémy Lopez. Enfin voilà, on est une super troupe d'ailleurs. Et puis je continue toujours avec mon film Touché que je continue à présenter un peu partout. Et d'ailleurs c'est fou, il a une deuxième vie. Je suis allée à l'Assemblée nationale. Là, je vais au cabinet du Premier ministre montrer le film. Et puis surtout, on fait une tournée dans les lycées, dans les collèges.
Avec. C'est qu'on t'organise ça quand tu veux chez nous, hein.
Mais je viendrai sans problème. Et d'ailleurs, là, j'ai fait déjà tout le sud de la France. Je pars dans le nord. Je crois que j'ai quelques dates en Bretagne. Et là, je repars à Toulouse et je viendrai chez vous le présenter avec les jeunes. C'est génial. Il faut faire de la prévention. Donc c'est un film, vous savez, sur les violences faites aux femmes. Mais c'est pareil. C'est pour ça que je dis parfois on est artiste. C'est avec des films comme ça où on peut. C'est plus facile d'échanger. Même les jeunes, là, on a fait des 400, 500 places. C'était génial en plus au cinéma. Avec les jeunes, c'était super. Les films, ça permet ça.
Exactement. C'est un beau cadeau en tout cas. Merci Alexandra.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À bientôt. Très bientôt.
Et la promesse verte, c'est mercredi au cinéma.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé cette semaine va s'intéresser à Brigade Anonyme qui arrive demain sur M6 à 21h10. Vous allez pouvoir découvrir les deux premiers épisodes produits par Victoire Dabovili qui est avec nous. Bonjour Victoire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Julien Séry à la réalisation qu'on retrouve également. Bonjour Julien.
Bonjour.
Et puis ils sont pas venus tout seuls puisqu'ils sont venus avec une des anonymes justement de cette brigade, Marilyn Nima. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Qui incarne Charlie, qu'on va découvrir dans un tout petit instant, évidemment. Victoire, déjà, c'est tiré d'une histoire vraie. Cette Brigade Anonyme, c'est ta première série. En plus, ta première production. Ça fait quelque chose, non, j'imagine?
Ah, ça fait quelque chose. Non, c'est très fort, très émouvant. Je pense que c'est fort pour plein de gens. Effectivement, c'est un fait divers que j'avais lu dans Le Parisien et c'est inspiré d'une histoire vraie. Et donc, c'est Béor qui s'est arrivé et donc qui a trouvé et retrouvé sa fille tout seul grâce à une communauté d'anonymes. Et après, aujourd'hui, donc il y a une association qui existe, qui s'appelle les Disparus Anonymes, et il aide des parents démunis comme lui à retrouver leurs enfants. Et la force du partage aussi sur les réseaux sociaux est très importante. Donc c'est un fait divers qui nous a inspiré l'histoire. Malheureusement, la réalité est un peu plus sombre que la fiction, et nous, on a voulu aussi quand même porter un message d'espoir. Donc on dit qu'on est plutôt sur une série où on retrouve des enfants que sur des enfants qui disparaissent. Et là aussi, l'objet des enquêtes permettent à réparer l'intime. C'est souvent aussi des drames intimes ou des histoires intimes. Et donc, on essaie d'aborder le sujet tout en portant un message d'espoir et avec le jeu de Marilyn, Eric Cantona, bien sûr, et Ariel Mallet derrière la caméra de Julien.
Alors, Julien, justement, c'est toi qui réalises ces quatre épisodes. On va voir les deux premiers demain. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet, toi?
Déjà parce que c'était tiré d'une histoire vraie, donc ça m'a vachement touché. Que j'avoue que c'est moi une... peut-être ma plus grande peur, en fait, qu'on enlève un de mes enfants. Donc moi, j'ai élevé des guerriers, comme ça, déjà, ça allait être plus compliqué pour ceux qui risquaient d'eux. Et puis voilà, j'ai été touché par l'histoire, j'ai été touché par comment Victoire me l'a pitché, comment Victoire me l'a raconté, et je me suis dit, allez, on fonce.
Alors, on va y retrouver Castaneda, qui est incarné par Eric Cantona. Sa fille va se faire enlever et il va aller un peu envers et contre tout, hein, en disant, je vais pas aller voir la police, mais on va faire appel à, on va monter une brigade anonyme pour tenter, en tout cas, de la retrouver. Il y a tout ça qui vient se mettre, évidemment, autour. C'est essayer de, pas de faire justice tout seul, mais d'essayer, en tout cas, d'avancer tout seul vers ça.
Alors déjà, il y a plusieurs. Ça pose la question en fait entre la justice et la loi. On s'est inspiré du fait divers, c'est-à-dire que c'était un ancien voyou et qu'au début, parfois c'est difficile aussi pour la police les premières heures de prendre au sérieux parce qu'il y a beaucoup de fugues et que là c'est un père qui dit moi je connais ma fille par cœur. Si elle n'est pas rentrée là, il y a un problème.
Et malgré tout, c'est souvent ce que disent les parents devant la police.
Oui, exactement. Donc c'est le sujet est pas simple et c'est pour ça que je pense que c'est un vrai sujet qui parle à tout le monde parce que c'est quelque chose d'extrêmement concernant et en même temps, il y a quelque chose de très proche de nous et en même temps de se dire on y a un espèce d'héros incroyable là incarné par Eric Cantona à qui on pourrait faire appel et ça pose aussi la question, c'est-à-dire qu'il se met hors la loi parce qu'il fait comme il peut avec ses amis, à l'épaule on dit un peu il fracasse les portes pour rentrer pour avoir des solutions et il y a aussi ces enquêteurs anonymes qui sont très importants, c'est toute une communauté, moi c'est ce que Beurre m'avait raconté, il y a des gens qui sont pas nés du bon côté du périphérique, qui ont peut-être pas fait d'études, et tout d'un coup, grâce à l'association, ils retrouvent une dignité, le fait d'être utile, c'est très important. Donc moi ce que je trouve très joli dans cette histoire, c'est le ensemble, le vivre ensemble, le enquêter ensemble.
Et puis il va y avoir l'infiltration d'Elena Noguera, qu'on va voir aussi évidemment. Marilyn, on va présenter Charlie un petit peu. Dis-nous un peu, qui est Charlie ?
Charlie, elle est pionne avant tout dans un lycée, dans le lycée où est Alia. Et donc, elle se sent, je pense, un petit peu coupable, elle se sent un peu responsable. Je ne dirais pas comment et pourquoi. Mais oui, donc elle a ça qui la hante un petit peu, donc elle a envie de se rendre utile. Elle sait qu'elle est douée pour les réseaux sociaux, pour plein de choses, donc elle se dit pourquoi pas aller aider le père dans la recherche. Et ça commence comme ça, j'en ai déjà trop dit, je crois.
Ben non, alors c'est soutenu, hein, Julien. Mais il y a aussi beaucoup de comédie, il y a quand même pas mal de touches de comédie. C'est ça qui fait du bien, ça. Du coup, ça décompresse souvent.
Le but, c'était de traiter le côté thriller, mais en même temps, de traiter les personnages et traiter le quotidien de ce que peut être le quotidien de parfois de héros. Donc l'idée, voilà, était d'être à la fois très très humain et très quotidien dans leur relation, tout en ayant ce côté thriller qu'il ne fallait pas lâcher. Donc on naviguait entre tension et humour.
Alors, les deux premiers épisodes ont été tournés principalement en Charente et en Dordogne. Après, il y en a eu en Charente-Maritime aussi. Ça, c'est ceux que vous découvrirez aussi la semaine prochaine. Une région qui a accueilli en tout cas ce tournage, c'est plutôt de bon augure pour espérer une suite aussi.
Ah bah, je pense que déjà c'est de bon augure de tourner en Nouvelle-Aquitaine, parce que notre idée c'était de s'ancrer. Effectivement, ce que je dis souvent, c'est que c'était pas forcément la région PACA, bling et paillettes. C'est-à-dire que le héros, c'est un Français comme les autres qui galère, qui a deux emplois, trois emplois. Charlie, elle est pionne. Harry, il est père de famille. Ils font un peu comme ils peuvent. Et c'est vrai que la région nous apporte une diversité de décors et de départements très intéressante, parce que aussi ils sont amenés à bouger. Donc c'est vrai que ça va vite, le montage va vite. Il est en voiture, il avale les kilomètres. Donc moi je suis très très contente qu'on ait tourné dans la région. On a eu un accueil à chaque fois incroyable. Et puis on a eu une super équipe. C'est vrai qu'on se connaissait pas quand on a commencé en janvier, parce qu'on a commencé les tournées, deux premiers épisodes en janvier et les deux derniers en septembre 2023. Et il y a eu, je crois, Marine, tu me diras, mais déjà il y a le trio marche super bien à l'image, et il y a eu un esprit d'équipe qui était vraiment très heureux de se retrouver. Donc ça, on en a bénéficié. C'était très fort d'être à la fois, de porter cette histoire et d'être ensemble dans l'équipe.
Ah, il y a ce trio inséparable maintenant qui est mené avec Eric Cantona et Ariel Mallet. Est-ce que tu avais déjà tourné avec ces deux autres? Parce que franchement, alors Harry, que je connais un petit peu, c'est pas le dernier, hein, déconneur. Mais j'imagine que ça a pas dû s'ennuyer sur le tournage quand même.
Bah non, c'est fantastique. J'ai des partenaires de jeu qui sont extra. Et il faut aussi rappeler qu'il y a Elena Noguera qui est avec nous. C'est plus un trio, c'est un quatuor de choc. Et
ça, c'est l'infiltré. C'est pour ça que j'avais un peu.
Ouais, elle arrive vite quand même. Mais bon, non, c'était super. Pour moi, c'était une découverte. Je les connaissais de nom, évidemment. J'en avais entendu grand bien, et c'est chouette. Je me suis retrouvée entre mes deux gardes du corps, donc c'est fantastique de les avoir.
On va écouter un petit extrait. Brigade Anonyme, ça débarque demain soir à 21h10 sur M6, nouvelle série événement, et on revient juste après avec Julien qui va nous planter un peu le décor, voilà, pour savoir un peu comment on démarre les 2-3 premières minutes, voilà, pour vous donner en tout cas l'envie de regarder demain soir. À tout de suite.
Je fais partie de ceux qu'on croise tous les jours. Longtemps, j'ai cru qu'on pouvait compter que sur soi. Alors quand les pouvoirs publics ne peuvent plus rien, je fais appel aux gens comme moi, ce qu'on appelle les anonymes. Mon nom est Castaneda, et je vais vous raconter mon histoire.
De retour, Julien Seri, Marilyn Lima et Victor Davoville sont avec nous. Brigade Anonyme, ça débarque demain soir sur M6. Julien, pour donner envie aux auditeurs d'aller voir demain soir et de se brancher sur M6, qu'est-ce que tu pourrais dire sur les 2-3 premières minutes? Comment ça démarre en trombe?
On démarre avec la présentation de notre héros et sa fille lui demande elle a besoin d'un coup de main, elle a oublié un contrôle chez elle et elle a absolument besoin de ce contrôle dans le quart d'heure. Donc elle demande à son père de faire une petite folie et de prendre sa voiture et de rouler un peu vite pour aller la récupérer.
Et là, elle va disparaître. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'elle devient? En tout cas, qu'est-ce qu'elle va devenir? Va-t-il la retrouver? Ça va être tout l'enjeu, en tout cas, de ces épisodes. Et on va voir que chez notre héros, ça va laisser des traces, en tout cas, pour la suite de ses aventures. Est-ce que c'est une série que vous avez envie d'installer dans le temps? Quelles sont vos ambitions, en tout cas, à long terme? Parce que là, il y a 4 épisodes pour l'instant de tourner, mais est-ce qu'on peut espérer en voir 4 ou 6 tous les ans comme ça?
Bah, les ambitions, oui, ça, je peux répondre que, bah, déjà, moi, à fond. Non, les ambitions sont très fortes. C'est vrai que la chaîne y croit énormément. Oui, si, bien sûr. L'idée, c'est qu'on le retrouve. Il y a des enquêtes différentes. On crée aussi des surprises. On est en train d'écrire la saison 2. Et donc, on casse parfois le rythme pour créer aussi des surprises. Il se déplace. Et c'est vrai que c'est une série très intéressante comme matière pour travailler dessus. parce que il y a à la fois des fondamentaux, c'est-à-dire une enquête, ce trio qui devient un quatuor, des personnages qu'on a envie de retrouver, et en même temps à chaque fois des histoires totalement différentes, et ils sont amenés à voyager, ils sont amenés à être confrontés parfois à des obstacles nouveaux. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant.
Marilyn, en tout cas, s'il y a une suite, toi, t'as envie d'y retourner à fond?
Évidemment, quelle question. On ferait quoi de Charlie? Elle serait où? Non, c'est pas possible. Moi, il faut que je renfile mon petit blouson en cuir avec des petits cœurs, mon casque rose, que je remonte sur le scout et c'est reparti. Évidemment que j'ai envie d'être de la partie pour la suite encore et encore.
Vous allez voir que oui, Charlie, c'est quand même un personnage, c'est la feminine touch un peu, c'est la pétillance en même temps. Mais il faut se méfier de l'eau qui dort, hein, on a l'impression des fois quand même. Hein.
Ah bah oui, toujours, évidemment. Les apparences peuvent être trompeuses, toujours.
Exactement, surtout dans cette série, Julien. Série. C'est bien fait. Bon, toi, t'as envie de continuer à réaliser, en tout cas?
Écoute, moi, je dis toujours, quand un réalisateur est sur une série, il est invité par la production à participer à l'aventure. Donc, écoute, je serais ravi de continuer à mettre ma petite patte sur la prochaine saison, évidemment.
Exactement. On va terminer par vos projets. Victoire pour toi en production. Il y a aussi Follow qu'on a pu découvrir en novembre. Franchement, c'était excellent comme série. On a vraiment adoré. Est-ce qu'on peut espérer une suite?
Alors, je crois malheureusement non, parce que c'est le système de 13e rue, ils font très peu de saison 2, mais ça peut changer. Follow, je pense pas, mais en revanche, d'autres beaux projets ambitieux, bien filmés, bien tournés, oui, je pense. Je prépare une mini-série pour France 2 et la saison 2 de Brigade Anonyme.
Génial. Marilyn, les projets?
Oui, j'ai tourné un film d'horreur pour OCS, qui sortira, je pense, en milieu d'année. Et une série pour France TV Slash, qui s'appelle Bugarache. Et le film d'horreur s'appelle Marae. Voilà.
Oui, Bugarache, c'est pour fin d'année, je crois, ou dans le courant de l'année 2024, hein, on en a entendu parler.
Pour les deux. Mais apparemment, tu en sais plus que moi.
À découvrir bientôt. Julien, lui, quant à lui, on va avoir un très beau film qui va bientôt sortir sur Prime Video, que t'as tourné au Brésil. Et puis la prochaine saison d'Astrid et Raphaël aussi.
Exactement, voilà, j'ai eu une grosse année l'année dernière et cette année encore c'est pas mal, donc je suis un privilégié, c'est cool.
Le film qui sort sur Prime Video, ça s'appelle ?
Il s'appelle Cali.
Et ça sort le ?
31 mai avec Sabrina Boisani.
Voilà, tout est dit. Brigade Anonyme, en attendant, c'est demain soir, c'est 21h10 sur M6, c'est les deux premiers épisodes. Merci Marilyn, merci Victoire et merci Julien d'avoir été avec nous.
Attitude.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé cette semaine consacré à TV5 Monde et première fois au musée. Premier rendez-vous de cette nouvelle émission qui débarque avec Richard Orlinski qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Richard.
Bonjour.
Un des monuments, ben oui, des sculptures, de tout ça. Mais non, c'est vrai Richard, moi je suis très très admiratif en tout cas de tout le travail que vous faites, des magasins, des expositions. Et on est très heureux de vous avoir là aujourd'hui dans l'émission pour parler de première fois au musée. Parce que quand on a vu cette émission, on s'est dit voilà, comment donner envie aux jeunes de s'intéresser à l'art. Et qui peut mieux que vous le faire?
Oui, c'est le challenge en tout cas, c'est ce qu'on a voulu. On a voulu effectivement, quand on a réalisé ce programme, souvent l'art c'est un peu emmerdant, c'est boring, c'est compliqué, c'est figé, ça bouge pas. Et donc là, d'arriver avec un programme frais, qui est un peu en forme de reality show, il y a du suspense, où les jeunes arrivent au début, ils disent « Ouais non, mais Richard, il arrivera jamais, hein, pour le musée, c'est pas pour mon truc. » On fait un casting quand même de jeunes adultes qui n'ont vraiment pas envie et qui ont jamais été au musée, ou peut-être très rarement. Et du coup, de voir la transformation et de voir comment les émotions que ça procure et qui sortent avec un avis différent, et ben je pense que le pari est gagné. Et puis il y a tellement de suspense, ça bouge, c'est vraiment même nous on est surpris, je suis très surpris, je m'attendais pas à des réactions pareilles.
Alors c'est vraiment 5 jeunes issus de milieux totalement différents qui ont des personnalités également toutes différentes, et il y a quelque chose chez eux de très attachant à la base, parce que c'est vrai qu'on les voit arriver, bon honnêtement ils arrivent à la piscine à Roubaix, se disent c'est quoi ce truc, qu'est-ce que c'est que ça, enfin c'est, et en fait ils ressortent émerveillés. C'est magique ça quand même.
Ben c'est ça, et c'est là où on dit qu'on est magicien. C'est pas, on a essayé. Alors là, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais on a vraiment. Je trouve qu'on a capté, on a trouvé le moyen d'y arriver et de voir ce changement d'émotion, de sentiment, cette évolution aussi de goût, de l'évolution de ressenti qui est, elle est vraiment incroyable. Et je pense que, sans vouloir encore une fois se vanter, on a réussi quelque chose d'incroyable, parce que je dis moi, de mon expérience, j'ai jamais vu d'émission sur l'art qui était, en tout cas, qui pouvait intéresser un public large. Voilà.
Et c'est ça qui est bien. Pourquoi la piscine à Roubaix?
Bah, je trouve le lieu emblématique, il est génial le lieu. Enfin, c'est une ancienne piscine, c'est complètement atypique ce mélange, et puis les œuvres, elles sont très charismatiques. Voilà, je pense que pour un premier lieu, il y en aura d'autres, mais on peut pas dire que c'est mieux que les autres parce qu'on en fera d'autres. Mais en tout cas, c'est un super lieu.
Alors, est-ce que c'est le début d'une peut-être longue série d'émissions qui iront chaque fois avec des jeunes différents, bien sûr, et dans des musées différents du coup?
Oui, c'est la vocation en fait, c'est ça qu'on recherche, c'est d'aller dans des endroits différents, aussi donner des coups de projecteur à des régions différentes, parce que tous les jeunes qu'on a appris étaient issus de cette région de Roubaix, et donc du coup ça permet de faire un parcours aussi en France et de découvrir aussi peut-être des mentalités différentes, des choses différentes, des visions différentes. Donc oui, l'idée c'est de faire un long chemin à travers la France.
Quels sont les autres endroits que vous aimeriez, en tout cas, et peut-être que vous allez dans le collimateur pour les suivants?
Alors, on n'a pas trop réfléchi, parce qu'on en joue un peu, comment dire, en anglais, go with the flow. On se laisse un petit peu porter par les choses et on regarde un petit peu les propositions. On espère aussi que, en voyant les émissions, ça va donner des idées à des musées aussi qui auront envie. Parce que notre façon de travailler, notre façon de voir les choses, c'est vraiment, faut qu'il y ait une envie, qu'il y ait un partage, qu'il y ait de l'émotion. Et donc, si en plus les lieux, les responsables des lieux, bah, ils sont heureux de faire ce programme et d'aller avec des jeunes, leur montrer l'art, etc. On va aller plutôt vers ça. Donc, les choix, voilà, on les a pas encore faits, mais c'est pas ça qui manque, en France.
L'emblématique gorille sert aussi, évidemment, de remise de prix dans des festivals comme celui de l'Alpe d'Huez il y a quelques semaines. Et c'est un partenariat de longue date avec ce festival aussi. Et cette emblématique gorille que maintenant tout le monde reconnaît, c'est la patte Richard Olensky.
Oui, effectivement. Donc, le festival de l'Alpe d'Huez, dans lequel, effectivement, on participe depuis un certain moment, on a réinterprété les prix qui étaient un peu simples, on va dire.
C'était très coloré cette année.
Oui, très coloré, absolument. Et là, on leur donne l'idée. Dans un festival de comédie, donc faut donner de la joie, du bonheur. On traverse une période un peu compliquée, donc je pense que quand on peut donner des choses positives, c'est intéressant. Et surtout pour les récipiendaires des prix, c'est intéressant parce que ils ont quelque chose qui a une valeur et qui peuvent avoir. Et souvent les trophées, bon, c'est pas jojo dans d'autres compétitions, donc on est content de pouvoir apporter ça en tout cas.
Bon, Richard, on va écouter un petit extrait. Première fois au musée, on revient juste après. On va parler musique.
Je m'appelle Richard Orlinski et je suis sculpteur. Pour moi, les musées ont toujours été des lieux inaccessibles, hors d'atteinte. Mais ça, c'était avant. Quand j'ai commencé à y être exposé, j'ai compris leur vrai sens. Ces endroits, ce n'est pas juste des murs avec des tableaux. Ce sont les gardiens de notre histoire, de notre culture. Chaque expo, c'est une leçon de vie, une diffusion du savoir.
Voilà, première fois au musée, premier numéro en tout cas de cette nouvelle émission que vous pouvez découvrir cette semaine sur TV5 Monde. Richard Orlinski est notre invité aujourd'hui. On va parler musique. Un peu Richard, parce que les gens le savent peut-être moins. Mais Richard Orlinski, c'est aussi de grands événements avec les plus grands DJ du monde aussi et qui vous emmène aux quatre coins de la planète.
C'est vrai, c'est vrai. Alors il y a une carrière musicale qui a commencé il y a un certain temps avec un son qui a fait numéro 1 de l'Airplay pendant presque 3 semaines en France et qui a été aussi exporté dans le monde entier avec Eva Simon qui s'appelle Heartbeat. Et j'ai grâce à ça fait quand même tous les Zéniths de France plus Bercy, enfin bon, beaucoup de scènes. Ensuite je me suis un petit peu reposé, c'est parce que la musique c'est un monde qui est très compliqué. Et là je reviens depuis un an avec un nouveau projet Arrêt Musique où je mixe effectivement dans des endroits un peu magiques comme par exemple à Oran cette année où j'ai mixé dans le théâtre antique avec Martin Garrix, avec Snake à Vevey, enfin que on a des DJ sur des très gros festivals et de plus en plus, et je propose un show immersif avec de la 3D, avec des écrans, des personnages qui sortent des écrans, avec vraiment quelque chose de très très novateur et qui plaît beaucoup. Il y a une vraie demande pour ça aujourd'hui et voilà, donc il y a plein de beaux projets par rapport à ça.
Des projets musicaux, quels seraient les endroits où vous rêveriez de mixer?
Ah, magique. Là, je vais mixer pour sûr aux États-Unis puisque je vais mixer à Las Vegas. Donc, je vais faire.
C'est déjà pas mal ça.
Pas mal. Je vais faire une résidence pour fin 2024, début 2025. Sinon, il y a un truc que j'aimerais bien que des DJ ont déjà fait, mais les pyramides d'Égypte, c'est un truc qui me tente très bien. Je trouve qu'il y a un truc un peu mythique comme ça, les côtés un peu désert, un peu, enfin tout ce côté un peu. J'aime bien mélanger moi le moderne et l'antique, la musique électronique avec des lieux qui ont une histoire comme ça millénaire. C'est un truc qui me parle bien.
Album en préparation ou pas?
Alors on a plusieurs projets en cours et notamment on a des sons, alors on va sortir un EP. Ouais. Donc voilà, avec plusieurs titres, avec une nouvelle direction artistique. On se cherche, hein, avec une nouvelle direction artistique et là je pense qu'on a trouvé quelque chose de bien, c'est pour très bientôt.
Bon, Richard, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Première fois au musée, ça débarque cette semaine sur TV5 Monde. Et on va suivre ça évidemment avec attention et le parcours de ces cinq jeunes qui vont découvrir l'art à travers l'envie que vous allez leur donner dans cette émission. Et je conseille justement à la jeunesse d'en regarder. Et vous allez peut-être avoir un œil différent, en tout cas sur l'art. Merci beaucoup, Richard.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Ensuite, on écoute la télé spéciale festival.
Page spéciale série Mania avec une des membres du jury qui nous a rejoint, Charlotte Brandstrom, qui est avec nous. Bonjour Charlotte.
Bonjour, bonjour.
Réalisatrice franco-suédoise qui réalisait beaucoup de films pour le cinéma mais aussi pour la télé. On vous appelle très souvent d'ailleurs pour des films de télévision en France, mais vous réalisez voilà un peu partout justement en Europe. Charlotte, ça fait quoi justement d'avoir été jurée dans ce série Mania et est-ce que vous avez dit oui tout de suite ?
J'ai dit oui très rapidement parce que j'aime bien voir ce que font les autres et passer un peu de temps. Et ce qui est très agréable aussi, c'est de partager ça avec le jury, avec d'autres personnes autour de vous et de pouvoir discuter des œuvres, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, du pourquoi et comment. Et là, en plus, j'ai un jury que je trouve absolument formidable. On s'entend tous très bien et on prend aussi beaucoup de plaisir à être ensemble et à partager des moments comme ça. Donc et puis c'est vrai que ça permet de voir des séries pas encore sorties
et du monde entier, c'est ça qui est chouette.
Et du monde entier et des séries que j'aurais peut-être pas l'occasion de voir. On a toujours l'occasion de voir tout aujourd'hui mais auxquelles je penserais peut-être pas forcément. Donc c'est très intéressant d'être là.
Quel genre de série voir vous êtes justement ? Est-ce que vous êtes du genre à dévorer les séries tout d'un coup, une saison à binge-watcher comme on dit aujourd'hui ou plutôt la déguster ?
Moi, non, je binge, je sais pas, parce que j'ai pas tellement le temps, toujours, de faire ça, mais j'essaie de regarder énormément de choses, et quand je trouve ça pas mal, je regarde le 1 et le 2, et comme c'est pas, j'ai vu quelque chose de pas mal, et quand ça me prend vraiment, ça me prend et que ça m'embarque, je peux pas m'empêcher de regarder toute la saison. Et là, je regarde vraiment toute la saison, et il y en a beaucoup où je regarde toute la saison, et actuellement, je vais pas mal au cinéma aussi, parce que j'ai été beaucoup au cinéma cette année, et si je regarde des films de cinéma, par contre, je les vois comme on doit les voir, c'est-à-dire que je vais en salle pour les voir.
Après, quelle série vous conseilleriez, vous, aujourd'hui ?
J'ai beaucoup aimé la quatrième saison de True Detective avec Jodie Foster parce que je trouve qu'il y a une atmosphère visuelle avec une ambiance incroyable et c'était très intriguant quand même. C'était une belle série. Je suis tombée par hasard sur une série d'appels là récemment qui s'appelle Criminal Record, qui est une petite série polar. Et ce qui m'a pris, que je trouvais très intéressante aussi, une très grande série, mais c'est une plus vieille série, c'est Chernobyl, que j'ai trouvé incroyable. Évidemment, je trouve que celui où j'ai fait un épisode, la série Shogun, que je trouve qui se passe actuellement sur Disney+, est une série vraiment intéressante et vraiment formidable. Moi, j'en fais partie, mais une petite partie, puisque j'ai réalisé l'épisode 3, mais ça a été quelque chose de formidable à faire et vraiment une très belle série.
Et Charlotte, vous avez quand même réalisé deux épisodes des Seigneurs des Anneaux aussi dernièrement, il y a 2 ans.
Oui, mais ceux-là, ils sont sortis il y a longtemps, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut les voir. Moi, j'ai réalisé 2 épisodes et j'ai eu la chance d'avoir 2 épisodes absolument formidables où le scénario était très intéressant. C'était l'épisode 6 et 7 où il y avait beaucoup d'action dans le 6 et des combats à cheval, une explosion de volcan et puis les conséquences de cette explosion sur la Terre du Milieu, avec la Terre du Milieu couverte de cendres. Donc, j'ai fait les 2 épisodes vraiment, 2 épisodes très excitants, quoi.
J'imagine bien que vous en parlez, en tout cas ça donne envie, ça c'est clair. Vous qui êtes franco-suédoise aussi, il y a des séries souvent reconnues pour leur extrême qualité. Les séries nord-européennes ont souvent du mal à arriver en France. Comment expliquer ça ?
Je sais pas. Ça devrait pas. Pourtant, il y en a qui arrivent quand même. Hein. Je trouve que ça va de plus en plus. Hein. De toute façon, je trouve que notre marché devient de plus en plus global. Hein. On voit un peu des séries du monde entier. Mais je trouve que la qualité des séries scandinaves tient du fait que les personnages sont incroyablement bien écrits. Comme on a quand même des petits budgets, il faut travailler ces scénarios d'une autre manière. C'est pas des scénarios qui sont forcément basés sur l'action, sur plein d'événements, mais c'est sur les acteurs, sur les personnages. Et ils se donnent beaucoup de mal et ils sont très soignés, je trouve.
Quand on regarde dans votre carrière, Charlotte, j'ai une mini-série qui m'a beaucoup marqué, moi, qui date de 2007. Alors j'en fais le parallèle aujourd'hui, lundi 25 mars, parce que dans deux jours sort le film d'Edouard Bergeon, qui est avec nous en début d'émission, qui s'appelle La Promesse Verte. Et ce film a été tourné en Thaïlande, et qui raconte l'histoire du combat d'une mère, justement, pour délivrer son fils, injustement condamné à mort. Et vous aviez fait Ma fille est innocente, que moi j'ai souvent conseillé à pas mal de monde, qui date de 2007, avec Joséphine Serre, qui était l'histoire d'une jeune fille qui avait été piégée justement avec de la drogue, qui avait été mise en prison, etc. Est-ce que c'est un souvenir marquant en tout cas de votre carrière, cette mini-série?
Oui, c'est un très très beau souvenir. J'ai adoré faire cette série. J'ai travaillé avec des comédiens incroyables. Il y avait Isabelle Otero, il y avait Bernard Yerles, il y avait Aurélien Vic et Joséphine Serre qui était le rôle principal. C'était vraiment une histoire très forte. Et c'était le combat des parents, en fait, parce qu'ils essayaient de la sortir de prison. Elle était condamnée à perpétuité là-bas. Et
c'était une mauvaise rencontre qu'elle avait fait là-bas, de souvenir. Hein. C'était Aurélien Vic, hein, le méchant.
Oui, Aurélien Vic, le méchant, l'avait embarqué dans quelque chose. Et c'était une série extrêmement bien écrite. Et c'était vraiment une série... C'est une série que j'ai fait pour TF1, donc, et c'était vraiment un beau souvenir. Et puis, tourner en Thaïlande avec des équipes thaïlandaises.
Vous aviez tourné en Thaïlande, vous aussi?
Ouais, j'avais tourné tout en Thaïlande, parce que ça se passait en Indonésie, mais les Indonésiens ne voulaient pas, n'acceptaient pas qu'on dise qu'il y avait de la drogue chez eux.
Tiens, Edouard, si tu écoutes la suite de cette émission.
Je pense qu'Edouard a eu le même problème, non? Ouais. Du coup, c'était censé être en Indonésie, mais on a tourné en Thaïlande. Et c'était vraiment un très très beau souvenir. Et puis les équipes là-bas étaient incroyables, quoi.
Bon, merci en tout cas, Charlotte, d'avoir été avec nous, membre du jury à Sérimania. Charlotte Brandstrom, dont j'admire beaucoup le travail. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. À bientôt.
Merci beaucoup.
Attitude. On va terminer. Eh bien, comme il se doit, comme on a terminé il y a 15 jours, puisque le festival n'était pas commencé, avec Frédéric Lavigne, le directeur artistique. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour terminer cette belle émission. Et puis, surtout ce beau festival que l'on a vécu pendant plus de 8 jours de fête à Sérimania. Quel bilan on peut tirer maintenant que c'est passé?
Bah, un bilan plutôt réjouissant, en tout cas en termes de fréquentation, de présence des créateurs, des créatrices, des stars. Voilà, il y a eu un record de fréquentation cette année, à nouveau battu. On va dépasser les 98 000 entrées, toutes séances confondues, en incluant le village du festival et ses expositions et ses ateliers et les séances scolaires.
On dépasse même les 100 000 si on ajoute la plateforme Sérimania Plus, où le public s'est rendu nombreux pour aller voir les projections aussi, parce que même à distance, les gens pouvaient voir. C'est ça qui est chouette.
Oui, oui, c'est ça. La plateforme permet aussi de rajouter des spectateurs à distance. Donc là, on ne compte que les spectateurs physiques du festival. Donc c'est extrêmement réjouissant. Et forcément, c'est pour ça qu'on fait un festival.
Les plus grandes fiertés, Frédéric, de ces 8 jours?
Ben, les plus grandes fiertés... C'est des moments d'émotion du public qui se met debout et qui applaudit à tout rompre une série quand ils ont été très touchés. Voilà, des moments comme la série Borders ou Ceux qui rougissent dans les formats courts ou After the Party. Et puis de voir arriver Patricia Arquette ou Peter Mulan ou Jeremy Irons qui passait au forum professionnel et qui vient aussi sur le tapis rouge le soir. Bah forcément, on est un petit peu fiers quand même, parce qu'on est fans aussi, nous.
368 séries, je crois, visionnées, pour en retenir plus d'une cinquantaine ici à Sérimania. Comment on fait pour avaler en 4 mois autant d'histoires? Comment on fait pour garder encore du recul?
Bah, on s'organise déjà, parce que, et puis on n'est pas tout seul, on est une équipe quand même de 7 personnes. Donc évidemment, on fait des tours de visionnage, on se répartit le visionnage, on partage les impressions. Voilà, donc il y a tout un processus en cours pour éviter que chacun des membres du comité de sélection voit les 368, ce qui est impossible physiquement, en fait. Voilà, donc c'est un travail d'organisation.
La Lettonie et la Nouvelle-Zélande étaient présents pour la première fois ici à Sérimania avec des séries. Il y a encore des pays qui ne sont jamais venus encore à Sérimania, que vous rêveriez d'accueillir?
Ah bah oui, toujours. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de pays africains, de pays d'Amérique du Sud encore. On a déjà eu des séries d'Amérique du Sud, mais cette année, on n'en avait pas. Voilà. Je pense que c'est un des grands plaisirs, c'est de voir que c'est une forme un peu mondiale, comme le cinéma, qui se pratique partout maintenant avec un bon niveau et qui raconte des histoires qui nous amènent dans des territoires qu'on connaît mal. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend, hein, vraiment. D'ailleurs, j'étais frappé de commentaires, même de critiques, qui disaient que même sur les séries historiques qui reviennent là, comme la série Herrhausen qui revient sur la chute du mur de Berlin, sur la série taïwanaise Three Tears in Borneo, où on réapprend des choses sur la Seconde Guerre mondiale en Asie. Enfin, c'est quand même passionnant que toutes ces fictions nous permettent de continuer à nous cultiver et à nous rappeler des choses.
Lundi prochain, on recevra une équipe d'une série qui pour moi a été coup de cœur, c'est Home Jegging. On aura la chance d'avoir Hervé Admar, on aura aussi Yannick Chouara, Marie Dontenier qui seront nos invités. On parlera cinéma aussi avec Et Plus et Affinité. On aura Bernard Campan, on aura Pablo Poli qui seront avec nous. On aura les réalisateurs du film qui a été primé à l'Alpe d'Huez. Que de festival, que de bons moments en tout cas, et de bonheur passé avec vous tous. C'est ça, c'est génial. Lundi prochain, on va avoir encore une émission bien riche. Merci Frédéric en tout cas d'avoir terminé avec nous.
Merci à vous.
Et à bientôt.
Oui, oui, à très bientôt.
Attitude. Et n'oubliez pas que Chute on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels avec une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est deux agences en Charente à votre service à Angoulême et Villebois-Lavalette et sur mazagran-immobilier.com.